Alors, il me semble qu'il faudrait ce soir qu'on se laisse à nouveau interpeller par le Saint-Sacrement, par ce mystère qu'on vit à chaque messe, un Dieu qui se donne sous forme de nourriture. Et donc, c'est tellement grand qu'il faudrait qu'on en soit étonné et qu'on vive chaque dimanche comme notre première messe. Bon. Alors, je vais vous donner peut-être trois clés d'émerveillement ce soir. D'abord, c'est quand même étonnant que Dieu donne sa présence de manière physique. En fait, quand on réfléchit à toute l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël, Dieu d'abord commence à chercher l'homme, à parler à l'homme, à s'approcher de l'homme. Petit à petit, alors il envoie des prophètes, bon, il parle. Puis à un moment donné, l'homme a le désir de tenir la présence de Dieu. Et vous l'avez au désert, quand Moïse monte sur la montagne, à ce moment-là, le peuple hébreu dit, mais oh, Moïse tarde à venir et on pourrait peut-être se faire une statue, quelque chose qui nous aide à prier. C'est intéressant, et dans l'Ancien Testament, le peuple, il a besoin de quelque chose. Il va créer le veau d'or. Donc c'est assez beau parce que ils prennent leurs boucles, tout ce qu'ils ont en métal d'un peu précieux, puis ils vont fondre tout ça, puis vont faire une belle statue. Et à un moment donné, donc Moïse descend et il devient violent parce que en fait le peuple finit non plus par adorer, par adorer Dieu. Mais il finit le peuple par adorer une statue. Mais derrière, vous voyez, il y a le désir le besoin de quelque chose de concret. Les paroles, c'est bien, mais on veut du concret. Et c'est là où Dieu va passer, en fait, de la statue du veau d'or à l'agneau immolé. Vous voulez ma présence concrète, je vais vous la donner. Cette présence, c'est moi, et je vais vous donner ma présence en nourriture. Alors, dans l'Évangile, c'est intéressant parce qu'on nous dit, il prépare la Pâque. Hein? Le premier jour de la fête des pains sans levain où l'on immolait l'agneau pascal. Donc on nous dit, il y a une histoire d'agneau, on va fêter la Pâque, il y aura un agneau. Et on ne nous parle pas de l'agneau après. Il ne mange pas l'agneau, il mange le pain, il mange le vin. En fait, l'agneau, c'est Jésus. Et Jésus aime tellement l'homme qu'il veut quelque chose de simple, qui peut se perpétuer dans le temps, eh bien, ce qui va être plus simple possible, c'est du pain et du vin. Très simple, très pauvre le pain. Puis le vin, à l'époque, c'est riche le vin, mais c'est quand même connu. C'est assez simple. Oui, l'agneau, c'est plus compliqué. Bon. En tout cas, l'agneau, c'est Jésus, et Jésus laisse passer sa présence à travers cette nourriture. Et du coup, on va passer du veau d'or à l'agneau et de l'agneau au pain et au vin qui sont sa présence. Voilà, je ne vais pas vous parler simplement, dit Jésus, je vais vous donner ma présence physique, concrète, parce que vous le désirez. On veut garder, je faisais un enterrement ce matin et il y a des gestes, on voit bien que les personnes veulent garder la personne. Donc ils vont mettre la main sur le cercueil, ils vont embrasser, il y a tous ces signes-là. Alors Jésus donne son corps, son sang, c'est une expression juive pour dire la totalité, hein. Comme quand on dit Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il a tout créé. Donc quand on va communier tout à l'heure au corps et au sang, on communie à la totalité de Jésus, son âme, sa divinité, tout son être. C'est pas le fait de manger, pas quoi. Un bout de chair humaine qui nous donne Dieu, ça donne pas Dieu, ça. Mais c'est la totalité de l'être. Bon, ça c'est important, ce sont des expressions juives qui sont très importantes. Donc vous voyez, la première chose, c'est Dieu passe d'une parole à une présence, et cette présence est très concrète. Nous sommes dans une religion très concrète. Et du coup, pour notre vie, il faut être très concret. Aimer les autres, c'est les aimer concrètement, c'est donner son corps. Saint Jean ne va pas mettre le récit de l'Eucharistie, vous n'avez pas ça dans Saint Jean. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ne l'avez pas. Par contre, vous avez le lavement des pieds à la place. C'est-à-dire un geste très concret. Au milieu du repas, il donne son corps en service. Voilà. De même que j'utilise le pain et le vin pour grandir, j'utilise Jésus pour être lavé. En fait, ce n'est pas moi tellement qui absorbe le pain et le vin, c'est plutôt Dieu qui me grandit, me divinise de communion en communion. C'est lui qui m'intègre à son corps. C'est lui qui fait que je deviens le corps du Christ. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, essayons d'être touchés vraiment par l'aspect extrêmement concret. Aucune religion n'a dit que Dieu se faisait nourriture. Aucune. Ça dépasse la raison. Pas. Bon. La deuxième chose, après cette présence physique, mais c'est que Dieu se donne sous forme de nourriture. Il se donne physiquement sous forme de nourriture. Il y a quelque chose par rapport à la nourriture. Le pain, le vin sont transformés, mais le signe qui demeure extérieur, les apparences, ce sont que des apparences parce que c'est devenu le corps et le sang. Mais l'apparence demeure d'une nourriture. Alors, il faut se laisser interroger ça. Qu'est-ce que ça veut dire une nourriture? Ça veut dire que c'est un pain pour la route, c'est pour qu'on soit fort. On en a besoin. Les jeunes disent, est-ce qu'il faut aller à la messe? C'est obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est nécessaire. Si l'aspect de nourriture demeure, c'est pour nous dire qu'on en a besoin. Et si j'oublie que j'ai besoin de la messe, alors dès que je vais à la messe, comme je vois le pain et le vin de la nourriture, je reprends conscience qu'on est de l'ordre de la nécessité de la nourriture. Si on mange pas, on meurt. Mais pour pas l'oublier, on nous met de la nourriture. Et c'est les signes. Quand on baptise quelqu'un, on met de l'eau. Mais pour dire, voilà, il va être lavé. Donc il y a un rapport entre le signe et ce qui se produit. Et bien, la messe, c'est la même chose. Il y a de la nourriture pour nous dire que tu en as besoin. Et donc, vous voyez, de messe en messe, d'Eucharistie en Eucharistie, on va devenir plus fort. L'Eucharistie est une arme contre le combat spirituel. Vous avez des récits de guérison, de miracles, tel saint qui prend le Saint-Sacrement, qui passe dans l'armée et quoi, l'armée s'arrête. Enfin, on a toujours des témoignages. Bon, j'en ai pas pris ce soir, mais bon. Vous avez des personnes, je pense à Marthe Robin, qui s'est nourrie pendant plus de 40 ans, une fois par semaine, d'une hostie, sans boire, sans manger. C'était pour dire au monde que l'Eucharistie est une nourriture. Bon. Alors du coup, vous voyez, de messe en messe, on va devenir plus fort. J'aime bien dire que, vous voyez, par le baptême, l'Église augmente quantitativement, en nombre. Par l'Eucharistie, l'Église augmente, grandit qualitativement. Et quand les gens communient, et quand les gens sont vraiment attachés à l'Eucharistie, ben, ça fait une Église forte, ça fait des gens passionnés. Et ça, on le sent. Hein. C'est très curieux, mais on sent très bien, nous qui sommes le prêtre, ben, quand on fait une célébration, on sent très bien comment l'Eucharistie est réceptionnée. C'est très curieux. Moi, dès que je fais un enterrement, je vois très très bien. Mais c'est une onction, si les gens ont la foi, pas la foi. Et c'est vrai que c'est très réconfortant quand on a une assemblée, on sent qu'ils attendent le Seigneur Eucharistie. Ils ont soif. Bon. Ce qui est votre cas, hein. Je sens que ça vibre en ce moment. Il y a de l'énergie. Bon. Troisième chose, je dis toujours la même chose d'une manière différente, mais c'est toujours un peu la même chose. Vous voyez, Dieu se donne de manière intérieure. Et la nourriture, vous voyez, Dieu se donne de manière intérieure. Bon. Là, il faut que je commente un petit peu la première lecture. Qu'est-ce que veut faire Dieu? Il veut faire une alliance avec son peuple. C'est tout l'histoire de la Bible. C'est un Dieu qui fait alliance. Bon. Et donc, dans la première lecture, on a Dieu qui a donné sa loi, et puis, vous avez bien entendu mes paroles, bon, ok, vous êtes d'accord. Alors, à ce moment-là, il y a Moïse qui va sceller l'alliance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend du sang, il va asperger le peuple. Voilà. Ça va signifier un contrat, vous voyez, entre deux personnes, avec ce sang qui rejoint la foule et qui rejoint le sacrifice du temple. Donc Dieu et la foule. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sang, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il est aspergé à l'extérieur des personnes. Bon, je sais pas trop comment ça se passait, mais bon, voilà. Un petit peu comme nous, on a une aspersion au début de la messe, bon, mais qui symbolise autre chose. Bon, la comparaison n'est pas très bonne. Voilà. Moïse prit le sang de l'alliance, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Le sang, il n'est pas aspergé à l'extérieur, il est intérieur. On va s'en nourrir. Ça va devenir intérieur. On va s'abreuver de ce sang. Donc on est passé d'une religion extérieure à une religion intérieure. Donc c'est le troisième défi, vous voyez, de bien comprendre que la question fondamentale de notre vie, c'est la question intérieure. Là, pareil, quand je fais des célébrations, des enterrements, j'essaie de savoir un petit peu qui était la personne pour bien situer mon discours. Bon. La personne me dit, ah, vous savez, elle était très chrétienne. Elle a fait sa communion, elle a fait sa confirmation, elle était enfant de cœur. Elle a fait ceci. Bon, la vie chrétienne n'est pas dans le faire. Elle n'est pas dans l'extérieur, pas des diplômes. La vie chrétienne est intérieure. Une petite Thérèse de l'enfant Jésus n'a rien fait. Elle a simplement travaillé sur son cœur. A essayé d'aimer les sœurs avec qui elle était, et puis d'essayer de pas trop dormir quand elle allait adorer le Seigneur dans la chapelle. Bernadette de Lourdes n'a pas fait grand-chose, elle était malade. D'ailleurs, l'évêque qui était rentré au monastère a dit, bon, mais pour elle, qu'est-ce qu'on va lui donner comme service? Elle n'a pas beaucoup de talent. Vous lui donnerez le service de la prière. Bon. Une Marthe Robin n'a rien fait. Désolé, mais elle était sur son lit, elle a rien fait. Hein. Elle pouvait pas faire quelque chose. Bon, elle recevait les gens, elle les écoutait, c'est vrai. Mais la sainteté, c'est une question intérieure. Oui. Et toute le Nouveau Testament va travailler sur l'intériorité. On vous a dit dans l'Ancien Testament que celui qui commettait un adultère était catastrophique, mais moi je vais vous dire, il y a pire que ça. C'est celui qui désire un homme, une femme, dans son cœur, il a déjà commis. L'Esprit Saint va être donné comme cette loi intérieure. Et donc, de l'intérieur, de ce que je ressens, je vais me laisser guider, et la loi n'est plus simplement extérieure comme les 10 commandements. Et vous voyez, l'Eucharistie nous le rappelle à chaque fois. La question, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est l'intériorité. Voilà, alors pourquoi, ces trois choses, c'est Dieu donne sa présence physique comme son testament, son dernier geste. Une présence physique, première chose. Deuxième chose, qui se donne sous forme de nourriture, pour dire que sans moi, tu vas mourir. Et cette nourriture, j'ai bien compris qu'elle était intérieure, c'est très simple. Et que l'enjeu de ma vie va être de vivre avec un cœur pur, au sens très large du terme. Alors pour nous, peut-être, vous voyez, on a l'adoration perpétuelle, vous voyez, quand on va adorer de jour comme de nuit, en fait, on demande cela au Seigneur. Seigneur, donne-moi de comprendre que tu t'es approché à la folie vers moi, Donne-moi de comprendre que tu es une nourriture. Et si je te désire par les yeux, c'est pour te désirer par le corps et pour essayer d'aller communier le plus souvent possible. Et donne-moi de comprendre que la réussite de ma vie ne sera pas dans mes œuvres, mais dans mon cœur. Et c'est ça l'adoration, c'est d'abord une prise de conscience de ce Dieu qui se fait fragile et qui me dit tout ça. Et puis, je voudrais terminer par une petite chose concrète. Comment on peut signifier ce respect du Seigneur et cette prise de conscience dans nos liturgies? Donc, je le dis avec beaucoup de douceur, de tendresse. D'abord, il me semble que, essayons, petit point concret, je vous fais un peu la morale, hein, d'arriver quelques minutes avant la messe. Quelques minutes, si, quelques minutes. Pour s'y préparer, vous voyez, pour s'y préparer. Bon. La deuxième chose, si nous avons la santé qui le permet, l'Église nous demande dans le missel de Paul VI, donc le missel moderne, de nous mettre à genoux au moment de la consécration. Voilà, hein, quand le prêtre lève le pain, le vin, on se met à genoux. Bon, c'est marqué dans le missel, c'est pas tradit, hein, ça, bon. Mais madame, vous ne mettrez pas à genoux, hein. Vous avez compris, vous êtes malade, vous, hein. Bon. La troisième, vous voyez, c'est les gestes qui signifient à l'extérieur ce que j'ai compris du mystère intérieur. Bon. Ensuite, la troisième chose, disons amen d'une voix forte. Quand les personnes s'avancent, je ne sais pas, alors c'est terrible parce que j'ai fait un enterrement ce matin, donc vous savez, je suis un peu marqué par ma journée, et je ne sais pas quand les personnes s'approchent si elles croient ou si elles ne croient pas. Il faut qu'on ait un amen puissant, pas puissant, amen, je ne sais pas trop, mais il faut qu'on entende. Vous voyez, je crois, c'est la plus petite réponse de foi, amen, ça veut dire je crois. Alors, il y a deux manières de communier, ma dernière chose. Soit vous communiez dans la main, soit vous communiez dans la bouche. Si vous communiez dans la bouche, voilà, pourquoi pas, mais il faut ouvrir la bouche, bon. Puis il faut dire « Amen » avant, voilà. Bon. Les gens, ils ouvrent la bouche, ils disent pas « Amen », bon, c'est pas trop. Si je ne communie pas, je me fais bénir. Voilà, si vous êtes catéchumène, vous souhaitez pas communier, vous mettez distinctement, vous faites bénir. Et si vous communiez dans la main, vous mettez vos mains... Alors d'abord, enfin, j'ai dit des choses, même les mains sont propres, c'est important. Je vérifie que mes mains sont propres. Si elles ne sont pas propres, je communie dans la bouche. Bon. Puis je fais un trône, voilà, un beau trône à hauteur de mon cœur. Et donc, à ce moment-là, ben, avec ma main droite, je prends l'hostie et je vérifie qu'il n'y a pas de parcelle. Mais des fois, j'ai la grande hostie. Et la grande hostie, vous voyez, elle a été coupée, donc il peut y avoir des petites miettes, tout ça. Et donc, c'est important, vous voyez, quand je dépose, que vous, après, vous vérifiez qu'il n'y ait pas une seule parcelle d'hostie. Parce que dans une seule parcelle, il y a le corps du Seigneur. Ouais, quand des personnes prennent, comme ça, vite fait, je dis, mais ils n'ont pas conscience, c'est pas possible. Je ne sais pas. Donc voilà, bon, vous voyez, c'est un cri du cœur qui dit le mystère de l'Eucharistie. Oui, en fait, quand vous réfléchissez, ce mystère de l'Eucharistie, c'est un mystère d'alliance, un mystère nuptial. C'est Dieu qui dit « Je voudrais célébrer les noces avec mon peuple ». Dieu est amoureux de nous, hein. C'est quand même... Je suis tellement amoureux, tellement, tellement, tellement que je veux habiter en toi. Je veux faire une seule chair avec toi. Je veux te serrer dans mon corps et moi dans le tien et qu'on fasse un seul être. Voilà, laissons Dieu s'approcher de nous et laissons-nous saisir par cette bonté. Amen.